RCF.
Les violences extrêmes d'une part, les différentes formes d'emprise d'autre part jettent le discrédit sur les religions. Quelles en sont les raisons et quelles réponses apporter ? La religion est-elle une démarche essentielle à l'humanité ou bien est-elle vouée à disparaître ? Il est très fréquent d'opposer spiritualité et religion. On privilégie aujourd'hui la première pour critiquer la seconde. Les religions n'ont certes pas bonne presse, mais que serait la spiritualité sans la religion ? Les critiques sont nombreuses et parfois bien étayées à l'encontre de l'Église, de la tradition, des institutions religieuses. Celles-ci ne sont-elles pas néanmoins nécessaires pour éviter les dérives, les sectarismes et les flambées irrationnelles ? Dans son éloge de la religion, Paul Valadier plaide pour un bon usage de la religion. Paul Valadier, bonjour.
Oui, bonjour à vous.
Bienvenue dans Dialogue.
Merci.
C'est une joie de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes jésuite, philosophe, professeur émérite au Centre Sèvres. Vous avez été également rédacteur en chef de la très belle revue Études. Vous venez de publier un éloge de la religion aux éditions Salvatore, un éloge, un discours qui vante les mérites ou les qualités de la religion à une époque où les religions ont mauvaise réputation, et cela vaut aussi pour le christianisme. Vous vous inscrivez dans une tradition apologétique, mais dans un contexte contemporain. Pourquoi défendre la religion ? Pourquoi ce livre ?
Oui, je crois qu'elle a besoin d'être défendue parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez signalé dans l'introduction, elle est évidemment l'objet de critiques, d'ailleurs souvent très bien fondées, parce qu'on voit bien aujourd'hui que les assassinats, le terrorisme, les violences et les abus sexuels dans l'Église catholique ne sont malheureusement plus à compter. Donc il est tout à fait vrai qu'on peut avoir un regard très négatif sur les religions. Mais je dirais que c'est une raison de plus pour ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Bien entendu, elles sont capables du pire, mais toute institution, les banques, la famille, sont aussi des lieux de violence. Elles ne sont pas que ça. Et donc il me semble qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, qu'il faut aussi s'apercevoir que, je dirais même d'un point de vue strictement séculier, elles font partie de notre patrimoine. Parce qu'elles apportent, et elles ont apporté au long des siècles, à beaucoup d'hommes et de femmes, le sens de leur vie, le goût de vivre, d'aller de l'avant, de s'engager, d'aimer les autres, de travailler à la justice, sans parler de toutes les œuvres d'art qu'en particulier le christianisme a laissé derrière lui. Donc je pense qu'il faut bien voir en effet le côté négatif, mais il faut retourner la médaille et voir à quel point les religions ou la religion sont essentielles, je crois, à l'humanité. Elles font partie même des trésors de l'humanité, depuis toujours, et espérons-le, pour toujours.
Quels sont les traits, selon vous, les traits essentiels de la critique actuelle du religieux ? Qu'est-ce qui est, à vos yeux, le plus important pour y voir
clair ?
Oui,
ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, c'est moins les critiques, parce que les gens se désintéressent, se détournent de la religion, que l'indifférence, c'est-à-dire ça ne m'intéresse pas. Je n'ai rien à voir avec tout ça. Je m'occupe avec, je fais du tennis, ou je fais du vélo, ou je fais de la peinture, mais la religion ne m'intéresse pas. Je trouve que c'est ça qui est le plus dangereux, parce que si vous voulez, quand il y a des critiques, on peut s'opposer à la critique. Je me souviens jadis, lorsque j'étais étudiant, il y a fort longtemps, on avait en face de nous des communistes et des marxistes. Bon, c'est des gens qui avaient des convictions. Et par rapport à ces gens-là, il était possible, en effet, d'avoir une position forte, et donc de discuter. Et même quelquefois, on se battait un peu, mais enfin surtout de discuter. Aujourd'hui, on est devant une société molle, où vous pouvez dire ce que vous voulez, vous avez tous les droits de dire oui ou non, et donc par conséquent, la discussion est très difficile, et sans parler du fait, évidemment, de l'ignorance religieuse, qui est absolument massive. C'est-à-dire que, pour discuter avec quelqu'un, encore faut-il avoir devant soi quelqu'un qui s'y connaisse. Et malheureusement, on a souvent affaire, pas toujours, il ne faut pas exagérer, mais enfin, dans le monde des médias en particulier, mais pas seulement, la jeunesse est dans une ignorance tout à fait fatale par rapport aux religions en général, et puis celle qui a quand même marqué notre pays, le catholicisme.
Alors si cette indifférence est le trait majeur de notre situation contemporaine, faisons un raisonnement un peu par l'absurde. Imaginons que cette indifférence prenne la forme d'un athéisme généralisé. Une société athée, est-ce que c'est cela vers quoi nous nous dirigeons? Que signifierait alors l'absence de toute adhésion religieuse à un niveau social, à un niveau politique? Est-ce que c'est une société viable, vivable, souhaitable?
Je ne crois pas à une société athée et je ne crois même pas que l'athéisme soit totalement soutenable. Parce que, oser dire ce qui serait l'athéisme, il n'y a rien de tel que Dieu ou du divin, il faut vraiment avoir de l'audace. Je préfère entendre l'agnostique qui dit, écoutez, là-dessus, moi je ne peux pas me prononcer. Peut-être y a-t-il Dieu, peut-être n'y en a-t-il pas, je suis incapable de trancher. Tandis que l'athée, il décide qu'il n'y a rien de tel que Dieu. Et malheureusement, on a eu des sociétés, les sociétés soviétiques, qui ont joué au jeu de l'athéisme d'État. Et on a vu ce que ça a donné quand même, comme catastrophe, je dirais même simplement humaine, économique, etc. Donc, je ne pense pas qu'on aille vers des sociétés athées, d'autant moins que vous pouvez chasser la religion ou le sacré, mais vous le chassez par côté cour, il revient côté jardin. Regardez ce qui se passe dans les stades. On a des idoles pour lesquelles on se bat et on verse du sang. Donc il faut bien se méfier qu'une société elle a besoin de sacré. Alors on va sacraliser des joueurs de foot, des vedettes de cinéma, des hommes politiques éventuellement, mais on n'échappera pas au sacré. Le problème pour le croyant, c'est précisément de s'apercevoir que malgré les apparences d'indifférence religieuse, il y a toujours un sacré qui est là et qu'il faut savoir le traiter et non pas le mépriser, bien entendu.
Alors on a ce niveau, on pourrait dire, de vie de l'opinion commune, hein, de la situation générale de notre société. Et puis il y a aussi le point de vue des intellectuels. Oui. Et parfois certaines formulations qui finalement sont acceptées sans trop de réflexion. Je pense à cette formule aujourd'hui qui fait consensus de Marcel Gauchet. Le christianisme, c'est la religion de la sortie de la religion. Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais tout le problème est de savoir ce qu'on met sous cette expression. Moi, personnellement, je la retiens, parce que je crois qu'en effet, le christianisme, tout en étant une religion, est aussi la sortie de la religion. Si on entend par religion ce qu'entend Gauchet, à savoir une attitude qui couvre la totalité de la vie sociale, on pourrait penser, si vous voulez, à la Torah ou à l'islam, c'est-à-dire qu'une soi-disant révélation vous donne des règles pour toutes les choses de la vie commune, du mariage à l'enterrement, à la vie politique, etc. De ce point de vue-là, le christianisme ne donne pas de règles à appliquer à la société. Quand des gens viennent demander à Jésus, tranche avec nos frères et sœurs, en question d'héritage, et Dieu sait si les héritages, c'est des lieux de polémique, eh bien, Jésus leur dit en gros, écoutez, vous avez des notaires, vous allez les voir, je ne suis pas venu pour ça. Donc Jésus nous donne en effet le souci de la charité et de la justice, mais ensuite c'est à nous de voir quelles sont les lois justes, ou à peu près justes, que l'on va mettre sur pied. Donc de ce point de vue-là, le christianisme est en effet une religion qui sort de la religion. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'en reste pas moins une religion, qui a ses rites, qui a des sacrements, qui a des textes fondateurs, qui a une communauté religieuse. Donc il reste de ce point de vue une religion, mais pas la religion envoûtante et englobante.
Paul Valadier, nous observons aujourd'hui une forte attractivité du spirituel, un essor des spiritualités, alors avec un caractère un petit peu flou, confus, comme vous l'analysez très bien dans votre ouvrage, une spiritualité sans religion. Qu'est-ce que cela veut dire? Une spiritualité athée, par exemple, cela a un sens pour vous?
Je n'y crois pas trop, je crois que c'est de la poudre aux yeux. Ceux qui prétendent ça, c'est souvent pour faire pièce à la religion. Vous voyez, on peut se passer de religion et on a quand même une spiritualité. Alors, si par spiritualité, on entend la vie de l'esprit, c'est-à-dire que tout homme réfléchit, pense, imagine, bien entendu, tout le monde a une vie spirituelle. Mais si on entend par une spiritualité authentique, c'est tout à fait autre chose. Et donc, je crois qu'il ne faut pas oublier qu'au moins dans le catholicisme, il y a des écoles de spiritualité. Le risque de se donner à soi-même sa spiritualité, c'est de tomber dans le sentimentalisme, dans l'émotion. On est, comme un peu Comte-Sforville lui-même, on est ébahi devant un coucher de soleil dans la forêt. Mais c'est tout de même pas tout à fait ce qu'on trouve, c'est Jean de la Croix ou Thérèse d'Avila, vous voyez. Bon, ça, la vie spirituelle est une vie difficile, c'est une aventure. C'est une aventure qu'on ne mène pas seul. Et on voit ça d'ailleurs dans le bouddhisme. On suppose qu'il y a quand même des maîtres. Des maîtres non pas pour vous diriger, mais pour éviter le découragement éventuellement, l'angoisse, et dissiper aussi les illusions. Parce que dès qu'on rentre dans la vie intérieure, on peut être l'objet d'illusions. Et quand on lit Thérèse d'Avila, on s'aperçoit que cette sainte femme passe son temps à s'interroger « Est-ce que je ne suis pas dans l'illusion ?» Et donc elle a besoin de vérifier sans arrêt, j'allais dire, où elle met les pieds. Donc elle a besoin d'un directeur, entre guillemets, elle a besoin de consulter ses filles, pour savoir si elle n'est pas en train de déraper. Parce que quand on ouvre la boîte de Pandore, eh bien on risque de trouver des anges de lumière qui sont des démons en soi. Vous voyez, Thérèse d'Avila n'avait pas lu Freud, mais Freud nous a enseigné que lorsque vous pénétrez en vous-même, vous ne rencontrez pas que des anges de lumière. Ou du moins, si vous rencontrez des anges de lumière, ils peuvent être des masques pour les démons.
Cette vie spirituelle est donc une exigence et elle fait partie d'un tout. Elle est indissociable de ce tout qu'est la religion avec ses différents aspects. Et peut-être faut-il insister aussi sur la dimension institutionnelle, et c'est peut-être là que le problème réside aujourd'hui.
Bien sûr, c'est-à-dire quiconque recherche Dieu ou l'absolu, quelque nom qu'on lui donne, ne peut jamais le faire seul. D'abord parce que, si vous voulez, dans la perspective chrétienne, mais c'est vrai, dans l'islam, on s'appuie sur des textes qui vous encouragent, qui vous donnent des voies, qui ouvrent un certain nombre de perspectives. Et puis vous avez besoin d'une communauté de foi qui va vous aider éventuellement, et éventuellement vous corriger, mais qui vous porte. Parce que nous avons besoin de témoins. On ne s'avance pas tout seul. Mais dans la tradition catholique, au moins, on a des saints. Évidemment, tout le monde n'est pas Jean de la Croix ou Vincent de Paul, loin de là. Mais disons, on se dit, voilà des hommes et des femmes qui ont quand même risqué leur vie sur le Christ, à leurs risques et périls. Ils ont souvent été d'ailleurs critiqués de leur époque. Mais ils ont montré qu'on peut faire des choses positives, être créateur dans une perspective spirituelle. Et ça, je crois que ça veut dire qu'on n'est pas seul à marcher sur ce chemin et qu'on a besoin d'être accompagné. Et, au fond, dans le catholicisme, nous avons la chance de croire à la communion des saints. C'est-à-dire qu'on n'est jamais seul. Et ça, je crois que c'est absolument essentiel. Peut-être d'autant plus que nous sommes dans une période individualiste où l'on croit qu'on peut régner tout seul, qu'on a des droits à soi seul, ce qui est évidemment tout à fait erroné.
Je voudrais encore creuser avec vous ce problème de l'institution, de l'Église, qui est aussi, d'une certaine manière, un bouc émissaire. On peut s'acharner un peu sans problème ou sans difficulté sur elle. C'est notre rapport aussi à l'institution, peut-être, qui est
à interroger. Oui, d'autant plus que l'institution, en général, ne répond pas. Vous pouvez tirer à boulet rouge sur l'institution. Il est rare que quelqu'un prenne sa défense. On n'est plus à l'époque de Léon Blois ou de Bernanos ou de Mauriac qui avaient le courage tout de même de croiser le fer. Et aujourd'hui, vous pouvez dire tout le mal que vous voulez des évêques et surtout des prêtres, bien évidemment, non sans raison. Mais je veux dire, en face de ça, c'est souvent le silence. Un silence souvent gêné, parce qu'en effet, il est très difficile, je l'ai bien vu dans ce livre, de faire l'éloge de la religion. Ce n'est pas l'éloge du catholicisme, hein, c'est l'éloge de la religion en général. Et donc, on peut tirer à boulet rouge sur la religion, elle n'en répond pas. Si vous attaquez un homme politique ou un acteur, il peut vous traîner en procès. Mais vous pouvez dire tout le mal que vous voulez de votre curé, je doute qu'il vous entraîne dans un palais de justice.
Alors, il y a effectivement cette difficulté de reconnaître cette institution, quelque chose aussi peut-être comme une crise de l'institution religieuse comme des autres institutions peut-être dans notre société, et également un autre phénomène qui est une sorte de fermeture, de repli, une conception, on va dire, qui fait de l'Église, comme vous dites, quelque chose comme un ensemble de saints, de prédestinés, d'élus, d'entre-soi, finalement.
Bien sûr.
C'est un risque.
Oui, le danger, c'est celui de toute institution. Toute institution, elle a tendance à s'affaisser, à s'ossifier, à se raidir, à ne plus avoir de souffle. Et évidemment, l'Église, on sait bien, n'échappe pas à ça. Donc le problème, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'heureusement, il y a, à travers les siècles, des hommes et des femmes qui se lèvent, hein, François d'Assise, pour dire, écoutez, ça va pas, hein, vous êtes en train de prendre un chemin de travers, il faut redonner de l'esprit à ce qu'il a perdu. Et donc, je crois qu'il faut maintenir l'idée que Luther avait défendue, semper reformanda. Elle est toujours à réformer, alors elle se réforme souvent trop lentement aux yeux de beaucoup, ça c'est vrai, mais c'est un immense paquebot que l'Église catholique qu'on ne fait pas virer de bord si facilement. Parce que nous sommes français, mais il y a des catholiques en Inde, en Afrique, en Amérique du Sud, en Chine, et tout le monde ne marche pas du même pas. Donc ce qui nous plaît à nous ne plaît pas nécessairement à un Indien ou à un Congolais. Donc c'est très difficile de faire tourner l'Église, hein, de faire avancer. On l'a bien vu à propos du Concile, c'est très beau de dire « il faut que », »,« il n'y a qu'à », mais il y a des résistances fortes et quelquefois elles sont fondées. Pas toujours, parce qu'il y a toujours un conservatisme, mais comme je disais tout à l'heure, toute institution a la tendance à s'affaisser et malheureusement l'Église n'y échappe pas.
Alors, toute religion peut s'affaisser, mais finalement, l'éloge de la religion, ce serait de reconnaître aussi que toute religion est obligée de porter un regard critique sur elle-même.
Bien entendu. Et
se pose alors plus particulièrement une question que vous soulevez, qui est aussi celle du rapport à l'universel. Oui. Et j'ai trouvé que vous développez une réflexion très intéressante sur ce point.
Oui. Bon, d'abord, sur le premier aspect, la fête de la critique, il suffit des évangiles. Le premier critique de la religion, ça a quand même été Jésus. Alors quand on nous dit l'hérésie, on n'accepte pas la critique, je dis écoutez, lisez quand même le texte du fondateur, on ne peut pas dire qu'il ait été un béni, oui, oui. Bon, alors sur l'universel, je crois que c'est un point absolument essentiel. C'est quand même l'idée que nous sommes tous fils et filles du même père. Et c'est la formule de saint Paul. Il n'y a plus d'esclaves et d'hommes libres, de païens juifs, d'hommes et de femmes. C'est une affirmation absolument majeure. Parce que ça nous distingue, je crois, par exemple, beaucoup de l'islam. Parce que l'umma, c'est ceux qui ont en effet entendu la parole du prophète et qui la vivent. Les autres sont des mécréants dont on n'est pas sûr du salut. Ça, je crois que ça n'est pas du tout chrétien. Parce que, comme dit saint Augustin, certains peuvent être dans l'Église, mais ils ne seront pas sauvés. Et d'autres qui sont en dehors de l'Église et qui connaissent rien de Jésus-Christ, parce que ce sont des justes, des hommes qui travaillent ou des femmes qui travaillent à la justice, ceux-là seront peut-être avant les croyants labellisés dans le royaume de Dieu.
C'est un peu ce que disait Bergson avec la religion ouverte et la religion fermée.
Oui. Bergson, juif, très tenté par le catholicisme, avait bien vu ça. C'est la religion fermée, c'est celle qui pense que ses fidèles sont assurés du salut parce qu'ils sont dans la bonne file, alors que je crois dans le christianisme... il suffit de lire le chapitre 25 de saint Matthieu. Hein, vous êtes venu me voir à l'hôpital, etc. Et les types disent, mais quand est-ce qu'on t'a vu ?
Mais si je vous posais cette question aussi sur l'universel, c'est par rapport à cette universalité qui doit faire face aussi à des différences, non seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur de sa propre tradition. Il y a plusieurs branches du christianisme.
Bien sûr.
Et ce dialogue est aussi intéressant.
Alors là, on pourrait parler de l'écuménisme. À l'intérieur même de l'Église catholique, il y a différentes spiritualités. Donc il y a par exemple les ordres religieux. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre un chartreux, une carmélite, une petite sœur des pauvres ou une mère de famille de 5 enfants qui essaie de les élever à la lumière de la foi? Apparemment, pas grand-chose les rassemble. Donc l'Église elle-même est faite de diversité. Je crois qu'on peut la comparer souvent à nos cathédrales où il y a la grande nef et puis il y a des tas de petites chapelles. Et c'est évidemment un problème parce que tout ça aboutit à ce qu'on puisse s'ignorer, se critiquer, dire il y en a un qui vaut mieux que l'autre. Ça, c'est un risque. Mais je crois qu'il faut bien voir que l'Église catholique n'est pas une secte où tout le monde suit le gourou, mais une diversité de charismes. Chacun a le sien, chacun a son talent, c'est à lui de le faire fructifier.
Absolument, et si vous insistez sur cette dimension de l'universel qui peut se parler dans des dialectes différents, comme vous le décrivez dans votre ouvrage, c'est aussi que nous avons peut-être à faire face à une situation nouvelle qui est celle d'être une minorité, ou de se placer, ou de se placer dans la société de cette manière-là.
Bien sûr, le risque de la minorité, c'est de se replier sur soi. C'est de dire, nous sommes le petit nombre des élus, c'est nous qui sauvons le monde, c'est les thèmes que je trouve tout à fait... dévastateur de la prédestination, on a des prédestinés. Je crois au contraire que les minorités peuvent être tout à fait efficaces dans une société. Parce que un des aspects de l'éloge de la religion, c'est que dans une société, la religion fait signe vers une transcendance. Elle empêche la fermeture de la société sur elle-même. Alors je disais tout à l'heure que l'Église, comme toute institution, a tendance à se fermer, mais c'est vrai aussi de nos sociétés. Donc la religion nous dit, bien sûr, le croyant est un citoyen comme les autres, mais il n'est pas que citoyen. Et ça, c'est évidemment fondamental.
Paul Valadier, vous nous invitez à ne pas faire trop vite le deuil du mot religion. Votre réflexion est ferme, nuancée, toujours stimulante dans cet ouvrage, Éloge de la religion. Vous insistez sur cette dimension de la transmission, de la communauté, la foi religieuse se reçoit d'autrui. Pourquoi l'éloge de la religion, qu'est-ce qu'elle peut apporter de durable aujourd'hui?
Ben, il y a beaucoup de choses qu'elle peut apporter. Je crois qu'elle nous apporte d'abord des textes fondateurs, comme par exemple dans le christianisme, les évangiles, qui nous stimulent à vivre mieux. Et il n'y a pas beaucoup de sociétés qui, dans le monde moderne, nous aident à vivre mieux. Déjà, à ce titre-là, les évangiles sont un plus qui nous est offert pour vivre. Mais je crois aussi que, je l'ai dit tout à l'heure en passant, la religion dans une société est le signe d'une transcendance, c'est-à-dire que l'homme dépasse la société. Et ça, c'est très important avec le problème, par exemple, de l'objection de conscience. Ça veut dire que nous ne sommes pas soumis aux lois de la société, sinon nous serions des termites, et nous serions des robots qui obéissent à la loi sans réfléchir. Au contraire, je crois l'idée même que nous avons à obéir à notre conscience, qui est, comme dit le Concile, le siège même de Dieu en nous, c'est comme une affirmation énorme. Le fait de dire « je dois obéir à ma conscience et éventuellement la suivre » et en m'opposant peut-être à tel type de loi, ça je crois que c'est une affirmation forte que la religion peut soutenir. Parce qu'elle va dire « mais en obéissant à ma conscience, c'est à plus grand que moi que j'obéis ».
Effectivement, et nous sommes dans cette situation où nous avons à rappeler ces choses qui semblent peut-être évidentes finalement, si on connaît un peu, mais c'est peut-être la marque d'une ignorance ou comme vous l'aviez dit tout à l'heure, d'une indifférence, et qui peut aussi s'accompagner d'autres formes nouvelles d'idolâtrie, enfin nouvelles ou anciennes, on va dire, de croyances sans qu'on y prête garde. Vous évoquez le pouvoir, de peut-être la centralité du travail, de l'argent, de l'épanouissement personnel, le goût du pouvoir, tout ça. Et vous dites une chose très intéressante, c'est qu'il y a un bon usage de l'indifférence.
Bien sûr, parce qu'on ne peut pas s'intéresser à tout. On ne peut pas, si on s'intéresse au rugby, on n'est pas nécessairement un fan de football. Si on s'intéresse à Jean-Sébastien Bach, peut-être qu'on n'aime pas trop Shostakovich. Donc je crois qu'il y a une bonne indifférence. Et il y a l'indifférence au sens de Saint Ignace, qui est de dire « je ne colle pas aux choses ». C'est-à-dire que, évidemment, je souhaite la santé, mais si par malheur il m'arrive un cancer ou une maladie, que je sois capable de l'assumer, sans m'effondrer, parce que je peux faire quelque chose de positif de cette réalité terrible qui me tombe sur les... Voilà, c'est ce que Saint-Ignace, je crois, appelle l'indifférence. C'est-à-dire, vous ne souhaitez pas simplement avoir de l'argent, être heureux dans la famille, être en bonne santé, vous accueillez l'événement et vous essayez d'en tirer le plus grand profit possible. Ça, je crois que c'est une grande sagesse religieuse, finalement, qui nous fait rejoindre par certains côtés les grandes sagesses antiques. Après tout, les stoïciens, c'était un petit peu ça. Et là, il y a une grande sagesse humaine que le christianisme, je crois, relaie tout à fait, et de manière forte en plus.
Le christianisme a cette puissance, cette lumière divine qui éclaire tous les hommes, écrivez-vous, mais une lumière discrète. Que voulez-vous dire ?
Oui, ben j'aime bien la formule de Simone Weil, n'est-ce pas, la philosophe, où elle parle du silence de Dieu comme absolument nécessaire. Ben, on a pas un dieu qui s'impose au milieu du tonnerre et des sons de trompette, etc. C'est un dieu discret. Ben, nous allons bientôt célébrer Noël. C'est le dieu de la crèche, c'est l'enfant dans une mangeoire. Voilà, ça c'est l'image de Dieu. C'est pas le dieu tonnerre qui s'impose à vous. Mais c'est vrai de tout amour. Si vous voulez un amour qui vous saute au cou, qui vous tient pas, c'est un peu suspect, me semble-t-il. Un amour, on fait signe. Vous voyez les signes, vous les voyez pas. Mais si vous les voyez, vous pouvez un petit peu avancer. Et c'est ça le véritable amour. C'est pas de s'imposer. C'est au contraire de se proposer. Et si on se propose, ça veut dire qu'aussi qu'on peut s'opposer et ne pas voir, ne pas entendre. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. C'est quand même une formule évangélique forte. Et ça rejoint le thème qu'on parlait tout à l'heure de la mauvaise indifférence. C'est-à-dire beaucoup de gens aujourd'hui, on retrouverait Pascal, sont pris par le divertissement et n'entendent plus les appels des autres, de la justice, des immigrés, des vieillards, et n'entendent plus la voix de Dieu, finalement, dans le silence. Parce qu'ils ne font plus de silence. Ils n'ont plus de silence.
Votre réflexion est une invitation à la vigilance, au discernement, à vivre une religion en esprit et en vérité. C'est ça l'avenir de la religion ?
Ben, il me semble, oui, que j'ai déjà entendu dire ça quelque part. Oui, oui, c'est pas se soumettre à la loi, c'est d'être vigilant et de tirer profit de ce qui arrive. C'est à nouveau ça le thème de l'indifférence. Qu'est-ce qui m'arrive et qu'est-ce que j'en fais ? Je crois que c'est aussi l'idée de la providence, si vous voulez. C'est ça, c'est que Dieu ne s'impose pas, mais il nous envoie des petits signes. Qu'est-ce que nous en faisons ? Ben, encore une fois, comme dans l'amour, on se donne des signes. Est-ce qu'on les voit ? Est-ce qu'on ne les voit pas ? Voilà, si on les voit, ben, on peut aller plus loin. Si on ne les voit pas, ben, on se ferme et on y perd, finalement.
Et cette expérience dont vous venez de témoigner implique aussi de retrouver un deuxième trait du religieux sur lequel vous insistez, c'est ce lien fraternel avec les autres croyants qui caractériserait la religion et qui ouvre une porte vers l'avenir et qui est peut-être pour nous à faire entendre, nous chrétiens à faire entendre aujourd'hui dans notre monde.
Oui, je crois que c'est un problème très difficile hein, que vous soulevez, le problème du rapport des religions les unes avec les autres, très très difficile. Ce qu'on peut dire malgré tout, c'est que un catholique pensera qu'un musulman ou un bouddhiste qui essaie de vivre en vérité et en esprit sa propre croyance, il est sans doute pas loin de Dieu. Donc il ne s'agit pas de convertir à tout bras comme font les pentecôtistes au coin de la place. Il s'agit de reconnaître intellectuellement que tous les hommes, s'ils sont fidèles à ce qu'ils portent en eux de plus haut, ne sont jamais très loin de Dieu. Alors, on a tous à faire ce travail difficile de se rapprocher de Dieu, mais on peut dire qu'il y a une fraternité humaine dans le fait que les uns et les autres, bah, nous cherchons à être vrais à l'égard de nous-mêmes et à l'égard de nos convictions. On peut espérer que tous ceux qui sont croyants à travers le monde cherchent en effet à vivre leur religion en esprit et en vérité, et pas seulement dans le conformisme et le pharisaïsme.
C'est ce que vous rappelez aussi à la fin de votre ouvrage, en évoquant en un mot, très rapidement, cette sainteté des gens ordinaires à partir de l'expression, la très belle expression de Madeleine Delbreil, qui guide et qui donne une puissance aussi, un écho très, très particulier à votre ouvrage. Paul Valadier, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Je rappelle à nos auditeurs le titre de votre ouvrage, Éloge de la religion, paru aux éditions Salvator. Merci infiniment.